Chapitre 37, acquérir le savoir. L'exercice des facultés, Dieu nous a donné la raison et les facultés mentales. Mais si elles sont laissées inertes, en friche, l'homme est réduit à l'état de vulgaire primitif. L'esprit et les sentiments ont besoin d'être éduqués et dirigés par des maîtres. Cela doit se faire précepte sur précepte, règle sur règle, afin que l'agent moral humain soit dirigé et formé en vue de collaborer avec Dieu. Le Seigneur agit dans l'agent humain par la lumière de sa vérité. Ainsi éclairé par elle, l'esprit voit la vérité en contraste avec l'erreur. Culture intellectuelle et service de Dieu, l'esprit humain est susceptible du plus haut degré de développement. Une vie consacrée à Dieu ne devrait pas être une vie d'ignorance. Nombreux sont ceux qui sont hostiles à l'instruction parce que Jésus a choisi pour prêcher l'évangile des pécheurs qui en étaient dépourvus, et ils en concluent que le Seigneur a ainsi manifesté sa préférence pour ceux qui manquaient de savoir. En réalité, de nombreux hommes instruits et honorables souscrivaient à l'enseignement du Christ. S'ils avaient obéi sans crainte à leur conviction intime, ils auraient suivi le Sauveur. S'ils l'avaient voulu, leur capacité aurait été acceptée et utilisée à son service. Mais devant la désapprobation des prêtres et la jalousie des chefs religieux, ces hommes manquèrent de l'énergie morale voulue pour confesser le Christ et compromettre ainsi leur réputation en faveur de l'humble Galiléen. Jésus ne méprisait nullement l'éducation. Si elle est sanctifiée par l'amour et la crainte de Dieu, la plus grande culture intellectuelle est approuvée de lui sans réserve. Les hommes simples que le Christ avait choisis comme disciples vécurent avec lui pendant 3 années, et bénéficièrent de l'influence de la majesté du ciel qui eut pour effet de les affiner. Jésus-Christ fut le plus grand éducateur que le monde ait jamais connu. Dieu acceptera les jeunes avec leurs talents et la richesse de leurs sentiments s'ils se consacrent à lui. Ils peuvent atteindre le haut degré des valeurs intellectuelles. Si par ailleurs ils sont équilibrés par les principes religieux, ils seront capables de poursuivre l'œuvre pour laquelle le Christ est venu du ciel, et devenir ainsi les collaborateurs du Maître. L'ambition d'un Maître digne de ce nom, le Maître digne de ce nom ne se satisfait pas d'un travail de second ordre. Il ne se satisfait pas de mener ses élèves à un niveau inférieur à celui qu'il pourrait atteindre. Il ne peut pas se contenter de leur transmettre simplement des connaissances techniques, qui feront d'eux des comptables habiles, des artisans adroits, des commerçants prospères, et c'est tout. Son ambition, c'est de leur insuffler les principes de vérité, obéissance, honneur, intégrité, pureté, des principes leur permettant de devenir des forces qui participeront effectivement à la stabilité et à l'élévation de la société. Il souhaite, par-dessus tout, que ses élèves apprennent de la vie la grande leçon de l'altruisme. Viser des objectifs plus élevés, je suis chargé de dire que nous devons élever l'esprit de nos étudiants à un niveau supérieur à celui que beaucoup croient accessible. Le cœur et l'esprit doivent être éduqués de manière à préserver leur pureté grâce à la réception quotidienne des bienfaits qui découlent de la source de la vérité éternelle. Au cours des siècles, l'Esprit et la main du Très-Haut ont préservé le récit de la création dans sa pureté. Seule la parole de Dieu nous donne le compte-rendu authentique de la création de notre monde. Cette parole est le principal sujet d'étude de nos écoles. Là, nous restons en contact avec les patriarches et les prophètes, et nous apprenons ce que notre rédemption a coûté à celui qui était égal au Père dès le commencement, et qui a sacrifié sa vie afin qu'un peuple puisse se tenir devant lui. Un peuple affranchi de tout ce qui est vulgaire, terre à terre, et renouvelé à l'image de Dieu. Capacité intellectuelle et morale doivent aller de pair, depuis longtemps le Seigneur attend que nos enseignants marchent dans la lumière qu'il leur a envoyée. Il faut humilier son moi pour que le Christ puisse restaurer l'image morale de Dieu en l'homme. La nature de l'enseignement dispensé doit être profondément changée avant que la structure de nos établissements scolaires soit correcte. C'est seulement lorsque les capacités intellectuelles et morales sont associées pour obtenir l'éducation requise que la norme de la parole de Dieu peut être atteinte. Les fruits de la vraie piété, partout nos fidèles permettent à leur esprit de voler beaucoup trop bas, ils ont des vues trop étriquées. Ils se laissent guider par les plans des agents humains, plutôt que de suivre ceux du Christ et de son esprit. Je suis chargé de dire à notre peuple, au lieu de vous arrêter aux choses terrestres, fixez vos regards sur les choses célestes. Le nombre n'est pas la marque de succès. Si c'était le cas, Satan pourrait chanter victoire. C'est le degré d'énergie morale qui se répand dans nos institutions, dans nos écoles et dans nos églises. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous devraient se faire une joie de représenter le Christ dans leur vertu chrétienne. Que tous nos enseignants sachent que la vraie piété est l'amour manifesté par l'obéissance à Dieu édifie et ennoblit. S'investir totalement, pour réussir la formation d'un caractère chrétien, il faut faire preuve de persévérance. Il faut être animé du désir d'exécuter les plans du maître d'œuvre. Les matériaux utilisés doivent être solides. Aucun travail bâclé du Dieu ne saurait être accepté, il signifierait la ruine de la construction. L'être tout entier doit être investi dans ce travail. Celui-ci exige force et dynamisme. Nulle réserve d'énergie ne doit être gaspillée à des futilités. La force et la détermination humaine doivent être mises à contribution, en collaboration avec le divin maître d'œuvre. Il faut déployer des efforts sincères et persévérants pour rompre avec les coutumes, les principes et les relations du monde. Des pensées profondes, un objectif bien arrêté, et une intégrité sans faille sont des qualités essentielles. Il ne faut pas se laisser aller à l'indolence. La vie est un dépôt sacré, et chaque instant doit être judicieusement employé. Mise en garde adressée à un étudiant, l'étudiant qui, en lieu et place des principes élevés de la parole de Dieu, adopte des idées terre à terre et permet que son temps et son attention soient gaspillés en banalité et en futilité s'apercevra que son esprit s'affaiblit et s'étiole. Il perdra le pouvoir de se développer. L'esprit doit être exercé pour pouvoir comprendre les vérités vitales qui concernent la vie éternelle. Ne pas négliger les affaires temporelles, la vie est trop solennelle pour que nous l'occupions tout entière à des questions d'ordre matériel et terrestre, et que nous nous soucions des choses qui ne sont qu'un atome comparé aux valeurs éternelles. Néanmoins, Dieu nous a aussi appelés à le servir dans les affaires temporelles. Le zèle apporté à cette tâche fait autant partie de la vraie religion que les exercices de piété. La Bible n'approuve jamais l'indolence, ce fléau dramatique entre tous qui afflige notre monde. Tout homme et toute femme vraiment convertis seront des travailleurs diligents. Qualité requise des enseignants, la cause de Dieu a besoin d'hommes qui possèdent de hautes qualités morales et à qui on puisse confier l'éducation des autres, des hommes à la fois solides, doués de tact et de patience, qui marchent avec le Sauveur, qui s'abstiennent de l'apparence même du mal et qui restent en si étroite communion avec Dieu qu'ils pourront être des portes-lumière. Ce dont la cause de Dieu a besoin, ce sont des chrétiens véritables. Les impressions produites par de tels hommes seront indélébiles, et leur enseignement subsistera durant l'éternité. Ce que l'on a négligé de préparer risque de ne jamais être fait. Qui veut entreprendre cette œuvre? Nous souhaiterions qu'il y ait des jeunes gens enracinés et affermis dans la foi, dont la communion vivante avec Dieu soit telle qu'ils pourraient, sur le conseil de nos frères dirigeants, fréquenter les écoles supérieures de notre pays, où ils disposeraient d'un champ plus vaste pour l'étude et pour l'observation. L'association avec des étudiants de formation intellectuelle différente, la connaissance des travaux et des résultats des méthodes populaires d'éducation ainsi que celle de la théologie telle qu'elle est enseignée dans ces grands centres intellectuels, serait d'une grande utilité pour de tels ouvriers. Ils seraient ainsi préparés à travailler parmi la classe instruite et à faire face aux principales erreurs de notre temps. Telle était la méthode des anciens vaudois. Si, comme la leur, notre jeunesse est fidèle à Dieu, elle pourra, tout en s'instruisant, accomplir un bon travail autour d'elle en jetant la semence de la vérité dans d'autres esprits. Influence des bonnes habitudes sur le caractère. La formation d'habitudes correctes doit laisser son empreinte sur l'esprit et le caractère des enfants pour qu'ils marchent dans le droit chemin. Cela signifie surtout les placer sous l'influence directe de l'Esprit de Dieu, les former et les discipliner, en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. La formation de bonnes habitudes, La manifestation de l'Esprit qui convient exigeront les plus grands efforts au nom de Jésus et par sa force. Le Maître doit persévérer, inculquant à ses élèves ordre sur ordre, règle sur règle, un peu ici, un peu là, avec patience, bienveillance, sympathie et amour, gagnant ainsi le cœur de ses enfants par l'amour du Christ révélé dans sa personne. Les caractères ne sont pas tous bâtis sur le même modèle, les maîtres doivent savoir qu'ils n'ont pas affaire à des anges, mais à des êtres humains qui ont des passions tout comme eux-mêmes. Les caractères ne sont pas formés dans un seul moule, et les enfants n'ont pas tous hérité du même tempérament. Ainsi se révèlent les bons et les mauvais traits de caractère. Que tout enseignant prenne cela en considération. Il aura affaire à de vilains traits de caractère héréditaires ou acquis, comme à de bons côtés, et il devra faire preuve de beaucoup de bonne volonté pour savoir comment se comporter envers ceux qui s'éloignent de leur bien présent et éternel. S'ils sont cultivés, l'impulsivité, l'impatience, l'orgueil, l'égoïsme et l'amour de soi feront beaucoup de mal et précipiteront l'âme sur le champ de bataille de Satan, mais dépourvu de la sagesse nécessaire pour mener sa barque. Dans ces conditions, le maître risquera d'être ballotté au gré des tentations de l'adversaire jusqu'au jour où il fera naufrage. Chaque enseignant doit veiller aux faiblesses de son tempérament, de peur que Satan ne se serve de lui comme d'un instrument pour détruire les âmes, à cause de ses traits de caractère non consacrés, Letter 150, 1893. Le maître doit cultiver un esprit chrétien, il s'agit d'une tâche quotidienne qui doit être mise en œuvre, d'une foi rendue agissante par l'amour, et qui purifie l'âme de l'éducateur. Considérez-vous la volonté de Dieu révélée comme votre autorité suprême? Si le Christ, l'espérance de la gloire, est en vous, la vérité divine agira sur votre tempérament au point que son pouvoir transformateur se traduira par un caractère régénéré. Vous ne changerez pas la vérité de Dieu en mensonge aux yeux de vos élèves à cause de l'influence d'un cœur et d'un caractère non sanctifiés, et vous n'afficherez pas un tempérament égoïste, impatient, contraire à l'esprit du Christ envers les esprits humains, montrant ainsi que sa grâce n'est pas suffisante pour vous en tout temps, et en tout lieu. Vous montrerez ainsi que l'autorité que le Seigneur exerce sur vous ne l'est pas seulement en parole, mais en réalité. Il faut renoncer à tout ce qui est répréhensible ou contraire à l'esprit du Christ, si difficile soit-il, même pour un vrai croyant. Des reproches continuels troublent l'enfant, le ciel voit dans un enfant un homme ou une femme immature, doté de capacités et d'aptitudes qui, si elles sont dirigées et développées comme il convient avec la sagesse d'en haut, deviendront des agents humains grâce auxquels les influences divines pourront coopérer avec Dieu. Des paroles dures et des reproches continuels troubleront l'enfant, mais n'aboutiront jamais à le réformer. Abstenez-vous de paroles de mauvaise humeur, soumettez votre esprit à Jésus-Christ. Vous apprendrez alors à être compatissant envers ceux qui sont sous votre influence et à sympathiser avec eux. Ne faites pas preuve d'impatience et de dureté, si ces enfants n'avaient pas eu besoin d'être éduqués, il n'aurait pas été nécessaire de les envoyer à l'école. Ils doivent être conduits avec patience, avec bonté et amour, sur l'échelle du progrès, qu'ils graviront pas à pas afin d'acquérir la connaissance dont ils ont besoin. Faire preuve de prudence avant de renvoyer un élève, prenez garde à ce que vous faites lorsqu'il est question de renvoyer des élèves, car c'est une affaire sérieuse. Seule une faute très grave justifie une telle mesure de discipline. Il faut prendre en compte toutes les circonstances de ce cas. Les élèves qui ont quitté leur foyer et qui en sont séparés par de courtes ou de longues distances, parfois par des milliers de kilomètres, sont ainsi éloignés et privés des avantages de leur famille. S'ils sont renvoyés, ils se voient refuser les facilités offertes par l'établissement scolaire. Toutes leurs dépenses doivent alors être supportées par quelqu'un qui avait fondé ses espoirs sur eux et qui leur faisait confiance avec l'idée que son argent ne serait pas investi en vain. L'élève qui a succombé à la tentation doit être puni pour cette faute. Il est douloureusement affecté parce que sa réputation est entachée, et il déçoit ceux qui espéraient qu'il se forgerait un caractère grâce à l'influence de son éducation en milieu scolaire, ce qui aurait compensé l'argent dépensé en sa faveur. Mais s'il est renvoyé à cause de son comportement absurde, que va-t-il faire? Son moral est au plus bas, son courage et sa virilité sont blessés. Cet élève coûte cher, et un temps précieux est perdu. Qui fait preuve de cœur et de bonté? Qui mesure le fardeau de ses âmes? Quoi d'étonnant si Satan tire profit de pareilles circonstances? De telles âmes sont jetées sur le champ de bataille de l'adversaire et les pires sentiments du cœur humain sont mis en éveil, fortifiés et ancrés. Ne pas créer des sentiments d'injustice, quand vous murmurez contre ceux qui ne sont chrétiens qu'en parole, n'oubliez pas que vous-même êtes chrétien. Quand vous perdez votre calme et que vous leur donnez la moindre occasion de penser que vous les traitez injustement, vous nuisez gravement à votre influence et à votre expérience chrétienne. Si vous pouvez l'éviter, ne leur laissez pas cette impression. Durant ce temps d'épreuve, nous forgeons nos caractères en vue de la vie éternelle. Mais il y a plus, tandis que se poursuit la formation de notre caractère, nous devons veiller attentivement à la manière dont nous le construisons, car d'autres construiront d'après le modèle que nous leur aurons donné. Un aliment adéquat pour l'esprit, de même que le corps, l'esprit a besoin d'une alimentation saine pour être fort et en bonne santé. Comme thème de réflexion, donnez à vos enfants des éléments qui ne viennent pas d'eux et qui sont au-dessus d'eux. L'esprit qui vit dans une atmosphère pure et sainte ne deviendra pas futile, frivole, superficiel et égoïste. Nous vivons à une époque où tout ce qui est faux et superficiel est vanté au mépris de ce qui est réel, naturel et durable. L'esprit doit être débarrassé de tout ce qui l'oriente dans une mauvaise direction. Il ne devrait pas être encombré par des récits de pacotille qui n'apportent rien aux facultés mentales. Les pensées sont à l'image de la nourriture que l'on fournit à l'esprit. Littérature à proscrire, les livres écrits par des auteurs incroyants font beaucoup de mal. C'est ainsi que l'ivraie semée dans l'esprit et dans le cœur des étudiants. Et cependant, telle est la nourriture qui est souvent donnée à l'esprit, tandis que nombreux sont ceux qui n'ont qu'une faible connaissance des sujets qui concernent notre destinée éternelle. En tant que tel, le temps est chose précieuse. Chaque jour, ce temps nous est confié, et nous devrons en rendre compte à Dieu. Il doit être employé pour sa gloire. Si nous voulons prolonger nos vies, si nous voulons obtenir la vie qui est à la mesure de celle de Dieu, nous devons donner à notre esprit une alimentation pure. Il ne faut gaspiller aucune partie du temps qui aurait pu être utilisé à bon escient. Apprendre à obéir à Dieu, j'ai vu que nous devons susciter un grand sentiment, sous la direction divine dans nos écoles. Mais la leçon primordiale que nos étudiants doivent apprendre, c'est de chercher de tout leur cœur, de tout leur esprit et de toute leur force à connaître Dieu et à lui obéir implicitement. La science du salut de l'âme humaine est la première leçon de la vie. Aucune pièce de littérature, aucun élément de culture livresque ne saurait avoir la priorité. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Que les étudiants se pénètrent de l'amour et de la crainte de Dieu dans leur vie scolaire. Cette sagesse est plus précieuse que les mots ne sauraient le dire. S'ils sont en relation avec Dieu, on pourra dire à leur sujet ce qu'on a dit de Daniel, le Seigneur leur a donné la sagesse et la science de tous les mystères. La connaissance est une bonne chose. La sagesse de Salomon est désirable. Mais la sagesse d'un plus grand que Salomon est infiniment plus désirable et essentielle. La connaissance dispensée dans nos écoles ne nous permet pas d'atteindre le Christ, mais nous pouvons, par lui, accéder au plus haut degré de l'échelle de la science. Car l'Écriture dit, « Vous avez tout pleinement en lui ». Notre premier devoir est de connaître et de reconnaître Dieu, et il nous dirigera sur notre chemin.